Merci Marie-Pierre. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous allez bien?
Oui.
Ça va pas durer. Ça marche toujours. Ça va pas durer malheureusement parce que vous allez être, je pense, un peu effrayés par ce que je vais vous raconter. Tout d'abord, je dois un petit peu vous demander d'excuser la manière dont je bouscule vos habitudes. Je sais que d'habitude, vos réunions ne prennent pas l'allure d'une conférence débat, que c'est beaucoup plus, comment vais-je dire, interactif. Je vais essayer d'être donc plus court, malgré qu'il y a tant de choses à dire, pour faire vraiment ce que moi j'appelle du décodage. C'est un texte compliqué, comme d'habitude, dans un jargon pas possible, donc il faut traduire. Et moi, ce que je souhaite, c'est pas que vous sortiez d'ici déprimé, même si les organisateurs ont oublié de mettre sur l'invitation « Munissez-vous d'un antidépresseur », c'est que vous sortiez complètement révolté et surtout décidé à faire ce qui me paraît le plus important, partager l'information. Alors, à ce propos-là, je vais utiliser un diaporama dans lequel vous verrez les principaux articles du mandat de négociation. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'avoir. De même que j'ai fait de tout ce que je vais vous raconter ce soir, un résumé d'une page. Ça, c'est pour quand vous rencontrez des journalistes, comme ça, ils n'ont plus qu'à mettre leur nom en dessous. Ou un résumé de 3 pages, c'est quand vous avez envie de vous d'expliquer aux autres tout ce qu'il y a dedans. Je peux vous l'envoyer aussi. Et puis, je vais vous parler d'un document qui est, lui, un peu plus consistant, qui concerne l'impact sur l'agriculture. Je vous l'enverrai aussi. À une condition, c'est que vous écriviez lisiblement votre adresse email. Parce que ce soir, je crois que c'est la 43e conférence, je dis chaque soir la même chose, et chaque soir, il y a des gribouillis végétatifs que je comprends pas, et donc, patatras, vous recevez pas, enfin, celui qui m'a écrit comme ça son adresse, il la recevra, il recevra pas les documents, puis il va dire, hey, il m'a pas envoyé ce qu'il avait promis, ben, donc, vous savez toutes et tous comme moi que les adresses électroniques, ça s'écrit en minuscule, écrivez en majuscule. Comme ça, au moins, je me suis rendu compte de ça vers la 32e conférence. Ça allait mieux quand je disais écrivez en majuscule, il y avait moins de dégâts. Donc ce sont des feuilles jaunes qui sont là. D'abord écrivez votre nom et prénom en majuscule et puis l'adresse en majuscule. Et vous aurez tout ce que je vous ai dit. En plus, je fais des notes thématiques. Là j'en avais fait une sur le grand marché transatlantique et les municipales. Parce que vous allez voir que ça concerne au premier chef aussi les municipalités. Je ferai une note sur le grand marché transatlantique et les normes sociales et puis d'autres. Donc vous les recevrez également au fil du moment où j'ai le temps de rédiger. Voilà, ça c'était pour les informations de service. Maintenant je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle officiellement PATAFTA, pas GMT, Partenariat Transatlantique pour le Commerce et l'Investissement. C'est quand même beaucoup plus cool, non? Partenariat, c'est sympa. Eh bien, il faut toujours se méfier quand on a des négociations internationales avec des titres aussi doux que le mot partenariat. Hein? D'ailleurs, on le sait bien déjà, on a les partenariats publics-privés et on sait que c'est un vrai piège à con pour les finances publiques. Hein? Donc, déjà tout de suite, il y a des raisons de se méfier. Mais vous allez voir, je vais commencer tout de suite par la conclusion, parce que si cette négociation, ce n'est encore pour le moment qu'une négociation, si cette négociation aboutit, il y a quelqu'un qui va voir son rêve réalisé. Alors vous allez voir, c'est un grand ami des peuples. Alors si ça veut bien se mettre en route, bien sûr, voilà. Il s'appelle David Rockefeller, hein, vous voyez qu'un humanitaire de premier rang. Et il a déclaré dans une interview à l'hebdomadaire Newsweek, quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Si le projet en cours de négociation aboutit, ça deviendra la réalité. C'est ce que je vais essayer de démontrer. Alors, je vais laisser tomber un certain nombre de choses que je dis d'habitude pour être quand même un peu plus court, parce que sinon c'est 2 heures. Hein. Et puis on verra bien dans la discussion, j'y ramènerai ce que j'aurais pas eu l'occasion de dire. Mais il faut quand même que je commence par quelque chose. C'est rappeler à ceux qui ne le savent pas ou qui ne le savent plus l'importance de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, qui existe depuis le 1er janvier 1995, c'est l'organisation internationale la plus puissante du monde. La plus puissante du monde. On s'en rend pas compte, mais c'est souvent de ce dont on ne se rend pas compte que vient le pire. C'est la plus puissante du monde parce que elle et elle seule a la capacité de faire respecter les règles dont elle a l'administration. C'est quoi les règles de l'OMC? Ben c'est dans tous les domaines et dans tous les actes de la vie, faire en sorte que les règles de la concurrence l'emportent et qu'il n'y ait aucun obstacle à cette concurrence. Voyez l'ambition, elle est immense, elle est énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est prévu que ça se fasse par des séries de négociations successives. Pourquoi est-elle la plus puissante du monde? Mais je vais prendre d'autres organisations. Il y en a une qui est chère à mon cœur, c'est l'Organisation internationale du travail. Elle existe depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale. C'est intéressant, on y trouve les États, les patrons et les syndicats. Et on y négocie ce qu'on appelle des conventions sociales. Et notamment les fameuses huit conventions sociales de base qui sont le socle des libertés syndicales et du droit de revendiquer, du droit de faire grève, du droit de manifester, etc. Il y en a aujourd'hui 176 conventions sociales. Seulement, problème, c'est que l'Organisation internationale du travail n'a pas... ceux qui ont négocié son existence n'ont pas prévu de doter cette institution de la possibilité de punir les États qui ne les respectent pas, même quand ils les ont signés. Donc c'est plutôt un vœu pieux. Même chose avec une autre organisation, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, elle édicte aussi des règles, qui la mettent souvent d'ailleurs en conflit avec les multinationales pharmaceutiques, par exemple. Mais l'Organisation mondiale de la santé n'a pas non plus le pouvoir de punir ceux qui ne respectent pas ces règles. Mais vous savez, des règles qu'on ne respecte pas, c'est des règles qu'on n'applique pas. Alors que, et je pourrais continuer comme ça avec toutes les institutions internationales qui ont édicté des règles, qui ont été négociées, dont les gouvernements que les gouvernements ont signées et puis que les parlements ont ratifiées. Seule l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, elle a le pouvoir de punir les États qui ne respectent pas ces règles. Alors ça se passe comment? Pour vous montrer l'efficacité, mais je vais vous donner un exemple concret que d'ailleurs je suis certain la plupart d'entre vous connaissent, c'est l'histoire du bœuf aux hormones. Quand on a décidé que le bœuf aux hormones c'était pas bon pour la santé, qu'on a interdit l'usage des hormones de croissance, donc naturellement on a interdit l'importation de bœuf traité aux hormones de croissance. Ça n'a pas plu à l'agro-business américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la demande de l'agro-business américain, le gouvernement des États-Unis a introduit devant une sorte de tribunal qui existe à l'OMC une action contre les pays européens qui avaient interdit le bœuf aux hormones de croissance. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on perd? Parce qu'on a perdu. Il y a deux possibilités. Ou bien on paye des compensations. C'est comme ça que ça s'appelle, des compensations. Et c'est pas par quelques milliers de dollars, hein. C'est des centaines de millions de dollars. Ou bien on supprime la règle qui a fait l'objet de la contestation, c'est-à-dire ici l'interdiction du bœuf aux hormones de croissance. Si on ne fait rien, parce que c'est la question qu'on me pose toujours, oui mais si on paye pas et si on garde la règle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça c'est la différence avec les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail, avec les règles de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la grosse différence. Parce que dans le cas des autres, il se passe rien. Ici, si on paye pas, ou si on supprime pas la règle, eh bien l'État qui perd, l'État qui gagne, peut infliger à l'État qui perd, sur 60 produits qui changent tous les 6 mois, 100% de taxes. Voyez l'efficacité du système. Ce qui fait que l'OMC... puisque elle est en capacité d'imposer ses règles, sinon on est puni, ce qui fait de l'OMC l'organisation internationale la plus puissante du monde. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je vous parle de l'OMC. parce que c'est étroitement lié avec ce projet. Je vous le disais il y a un instant, l'OMC s'est entré en vigueur après 8 ans de négociations, l'Uruguay Round, le 1er janvier 1995, et tout de suite, les pays industrialisés, les pays riches, ont dit « mais ça va prendre beaucoup trop de temps ». Des séries de négociations successives pour arriver à mettre morceau par morceau en application les accords de l'OMC, ça va prendre beaucoup trop de temps. Faut qu'on recommence des négociations. Ils n'ont pas obtenu tout de suite satisfaction. En 97, il y a eu une réunion à Genève, ça n'a pas marché. En 99, il y a eu une réunion dans une ville dont certains se souviennent peut-être du nom, Seattle. Ça n'a pas marché parce que il y avait tellement de manifestants contre cette réunion qu'elle n'a pas pu se tenir. Mais malheureusement, patatras, et après, il y a eu le 11 septembre. Et le 11 septembre, ça a créé un certain climat. Enfin, certains ont voulu créer un climat certain. Parce que après le 11 septembre, il y avait, fin novembre, une nouvelle conférence ministérielle de l'OMC, à Doha, au Qatar. Eh oui, déjà le Qatar. Et là, tout était fait pour intimider. Tout était fait pour faire pression. Je vais vous donner deux exemples. J'étais à Doha, j'étais un des observateurs. Quand je sortais de ma chambre d'hôtel, il y avait un agent de sécurité devant ma porte. Il m'accompagnait jusqu'à l'ascenseur. On descendait ensemble au rez-de-chaussée. Et il m'accompagnait pour traverser le hall de l'hôtel jusqu'au moment où je montais dans un minibus. Et où les autres participants, des ministres, des négociateurs, subissaient le même régime, la même surveillance. Rien que ça, ça vous fait déjà un certain climat. On montait dans le minibus, donc le minibus s'en allait, et il faisait comme ça, parce qu'il y avait des chevaux de frise, des barbelés, et des chars. Ça crée une certaine atmosphère, je vous prie de croire. Alors, l'autre témoignage, c'est à l'intérieur. Et là, je dois vous parler d'un grand, un autre grand ami des peuples, français, socialiste, Pascal Lamy. Pascal Lamy était commissaire européen à l'époque. Et j'ai été le témoin dans une sorte de hall du lieu de la conférence. Il parlait à deux ministres d'Amérique latine et à trois ministres d'Afrique. Puis il y avait encore quelqu'un d'autre, je ne savais pas qui c'était. Et il a dit, si vous ne soutenez pas nos propositions, vous vous faites les alliés des terroristes. Vous voyez les méthodes? Et donc, ils ont obtenu l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations qu'on a appelé le cycle de Doha, qu'officiellement on a appelé le cycle pour le développement, ça c'était pour appâter un peu les pays du Sud, et ça a démarré. Mais 2 ans plus tard, à Cancun, au Mexique, 90 pays du Sud ont dit « Vous vous foutez de nous, c'est pas pour le notre développement que vous voulez ces négociations, c'est pour le développement de vos sociétés multinationales. Nous, on veut plus. » Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à l'OMC, il faut l'unanimité pour décider. Même un pays qui s'y oppose, il n'y a pas de décision. Ben, ça n'arrive pas, hein, parce que quand il n'y en a qu'un, les pressions sont énormes. Là, 90. Patatras. Et puis, pour les années qui suivent, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Ce qu'on appelle dans le jargon un peu les BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Qui ont dit, nous non plus, vous faites un peu les archiprêtres du libre-échange, mais quand ce sont vos intérêts, vous êtes capable de les protéger. Donc on marche plus. On se retrouve à la fin des années 2000, et entre-temps, le camarade Pascal Lamy est devenu directeur général de l'OMC, fallait le récompenser pour bons et loyaux services, et il est bien obligé, ça a dû être dur pour lui, hein, de constater l'échec du cycle de Doha. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'échec du cycle de Doha? Ça veut dire que les puissances occidentales, les pays d'Europe, les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada, ne parviennent pas à dicter, à imposer leurs lois au reste du monde. Mais ça, c'est pas possible, voyons. Comment peuvent-ils ne pas nous obéir? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout de suite, il s'est passé... Là, j'ai résumé, hein. Donc, je défile des diapos, voilà, il s'est passé ceci, c'est qu'en 2011, actant l'échec du programme de Doha, le président des États-Unis a entamé des négociations avec des pays amis du Pacifique pour un partenariat transpacifique. Donc on trouve là-dedans l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, Singapour, des pays traditionnellement fidèles aux États-Unis. Et puis 2 ans plus tard, quoi, eh bien le 13 février de l'an passé, de grands démocrates, comme chacun sait, vous savez à quel point ces gens sont soumis au suffrage universel, le sieur Van Rompuy, président du Conseil européen, et Monsieur Barroso, président de la Commission européenne, ont signé avec le président des États-Unis un engagement. Un engagement de quoi? Eh bien, d'entamer des négociations pour un grand marché transatlantique, pour un partenariat transatlantique. Vous voyez donc que la motivation du partenariat transatlantique, c'est de trouver le moyen de contourner l'impasse, l'obstacle à l'OMC. Puisqu'on ne parvient pas à imposer nos volontés au reste du monde dans le cadre de l'OMC, on va d'abord constituer un gros bloc avec les Européens et quelques pays du Pacifique, et après on sera puissant assez pour imposer ça au reste du monde. C'est ça la rationalité. Bon, d'où ça vient cette idée transatlantique? Alors là, permettez-moi de faire un tout petit peu d'histoire. Je nous ramène en 1990. 1990, vous vous souvenez, la chute du mur de Berlin quelques mois plus tôt, la fin de la division du monde en deux blocs, la fin de la division de l'Europe. On aurait pu espérer, on avait parlé là d'un nouvel ordre mondial, on aurait pu espérer pour nous, Européens, enfin réunis, de construire quelque chose qui serait conforme à nos valeurs, une Europe européenne. Eh bien non, pas du tout. Nos gouvernements décident tout de suite, nos gouvernements décident de lier notre sort à celui des États-Unis. Et on signe dès 1990 une déclaration transatlantique. C'est l'origine de ce dont on va parler ce soir. Dans cette déclaration transatlantique, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, on continue l'OTAN. L'OTAN qui était l'outil de la guerre froide, qui avait plus de raison d'être, qu'on pouvait supprimer. Donc on pouvait supprimer le poids militaire américain sur l'Europe. Non, on décide de le continuer. Deux, on décide de faire des sommets États-Unis-Europe chaque année. On décide d'organiser des réunions régulières entre des parlementaires des pays d'Europe et des parlementaires américains. Et on décide d'encourager les hommes d'affaires des deux côtés de l'Atlantique à se réunir le plus souvent. D'ailleurs, on va aller un tout petit peu plus loin. En 1995, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est pas banal, hein. Imaginez un tout petit peu que on aurait vu là à la fin du 19e siècle, quand il y avait des mineurs ou des ouvriers qui se battaient pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, etc. Imaginez qu'à ce moment-là, un gouvernement aurait dit « Mais vous seriez plus efficace si vous organisiez un syndicat. » Impensable. Impensable quand il s'agit des ouvriers, des salariés. Pas impensable quand il s'agit des firmes. Parce qu'en 1995, c'est ça qui se passe. En 1995, le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne proposent à 500 firmes des deux côtés de l'Atlantique d'organiser un syndicat patronal. Ça va s'appeler le Transatlantic Business Dialogue, le TABD, qui va se réunir tous les 6 mois, une fois à Washington, une fois dans une capitale européenne, qui va publier des recommandations adressées au gouvernement américain et à la Commission européenne. Et là, on est en 95, monsieur Pascal Lamy, rassurez-vous, je fais pas une fixation, hein. Pascal Lamy, il devient commissaire européen en 97. Et dès qu'il est nommé, il désigne 2 fonctionnaires, donc 2 agents publics de la Commission, qui vont lui faire rapport sur la manière dont la Commission européenne applique bien les recommandations du TABD. Étape suivante, on va passer à quelque chose qui s'appellera, à l'occasion d'un sommet États-Unis-Europe, création d'un partenariat économique transatlantique, qui est un organe de concertation, pas très important, je dois le dire, mais plus important, c'est en 2007. En 2007, on crée une institution internationale, un conseil économique transatlantique, Quand on crée une institution internationale, ça veut dire qu'on signe un traité. Quand on signe un traité, il doit être ratifié par l'Assemblée nationale en France. Il n'a jamais été. Pourquoi ? Ben sans doute parce que les membres de ce Conseil économique transatlantique, ce sont les associations humanitaires que vous avez sous les yeux, Total, Ford, ExxonMobil, Paribas, la Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Pfizer, enfin tous ces gens-là, quoi. Okay. Qui font quoi ? Ben qui conseillent le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne. Et puis on arrive à la fin de la période, en 2011, donc l'échec du programme de Doha, en 2011, deux jours avant que Barroso et Van Rompuy, en 2011, Obama, Van Rompuy et Barroso décident de demander à un groupe d'experts de haut niveau, oui, parce que sans doute il y a des experts de bas niveau, c'est parce qu'on les a appelés comme ça, High Level Expert Group, de faire la démonstration que si on fait un marché unique, et nous savons ce que c'est un marché unique, on avait le marché commun, en 86 c'est devenu le marché unique, que si on fait un marché unique Europe-États-Unis, ça va créer de la croissance et ça va créer de l'emploi. Et donc ils demandent à un groupe d'experts de haut niveau d'en faire la démonstration. Deux ans plus tard, le 11 février 2013, donc deux jours avant que Barroso et Van Rompuy signe avec Obama l'engagement de commencer des négociations, les experts de haut niveau sortent leur très important rapport démontrant de manière absolue que ça va rapporter de la croissance et de l'emploi. Le voilà. Il fait 6 pages. Il n'y a pas un seul chiffre. C'est que de l'affirmation de principe. Des affirmations qui ne sont pas démontrées. C'est tout. Alors, si vous vous demandez qui sont les experts de haut niveau, vous posez pas trop longtemps la question, vous les entendez tous les matins sur France Intox, à 20h chez Poujadas, quand il invite Monsieur Langlais, merci de nous avoir informé Monsieur Langlais, mais ce sont ces gens dont on nous dit quels sont les titres universitaires, mais dont on ne nous dit jamais pour quelle firme privée ils travaillent en même temps. C'est ça les experts de haut niveau. Hein. Indépendants, bien entendu. Hein, indépendants. Bon, voilà. Donc, on décide le 13 février 2011 de commencer des négociations. Alors, je vous explique rapidement comment ça se passe, des négociations entre l'Union européenne et, en l'occurrence, les États-Unis, mais c'est comme ça pour toutes les négociations entre l'Union européenne et d'autres pays. Premièrement, la Commission présente des recommandations. C'est l'article, je résume l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En fait, ça, c'est le principe classique depuis 1957. La Commission propose, les gouvernements, le Conseil des ministres décident, et puis la Commission exécute. Donc, la Commission propose ce qu'elle va exécuter. Faut pas oublier. Donc, ça commence par ça. Elle fait ses propositions, puis les propositions sont examinées par les gouvernements. Ça prend des semaines, ça prend parfois des mois. Il y a beaucoup de négociations, de concertations, et puis vient un jour où à Bruxelles, il y a une réunion du Conseil des ministres. Donc, des 28 gouvernements aujourd'hui. Et ils décident. Ils ont bien travaillé sur les propositions de la Commission. Alors après des amendements, des corrections, des compléments, des enlèvements, ils enlèvent des choses. Ils adoptent un texte. Ce texte devient le mandat de négociation. C'est la Commission qui négocie. Elle est le négociateur unique. La Commission, dans l'affaire qui nous intéresse avec les États-Unis, c'est qui ? Alors... Il faut que je boive un petit coup avant de prononcer son nom, parce que... Même si c'est pas trop compliqué pour moi, puisqu'il est belge et que ça se soigne, comme j'en suis l'exemple vivant. Il s'appelle Carol de Gucht. Il a quelque chose d'européen. Enfin, à la manière de Cahuzac. Il est poursuivi dans son pays pour fraude fiscale. C'est lui qui représente l'Europe, les peuples d'Europe dans une négociation avec les États-Unis. Un mec qui est poursuivi pour fraude fiscale dans son pays. Autre chose, si vous voulez voir un peu le profil politique, ben à côté de lui, Alain Madelin, c'est un mouton. c'est un libéral pur, dur. Voilà, ça c'est le négociateur. Et il est évidemment accompagné de toute une équipe. Alors, je vous préviens, il faut se méfier de l'enfumage. Parce que vous savez que nos gouvernements, ils sont très forts pour ça. Donc, on a déjà entendu depuis Bercy dire « je ne sais pas ce qui se passe dans ces négociations, ça se passe à Bruxelles, ça se passe à Washington, on ne sait rien ». Bien déjà, ils ont fait fuiter ce genre de déclaration dans la presse. C'est faux. C'est faux parce que l'article 207 dit que le négociateur, donc la Commission européenne, est accompagné d'un comité auquel on a donné le même numéro, le 207. Et dans ce comité, les 28 gouvernements sont dedans. Pour nous, c'est deux fonctionnaires de Bercy. Et qui suivent au jour le jour les négociations. Donc ils sont parfaitement informés. Ils reçoivent des notes. Ils ont d'ailleurs la possibilité de dire aux négociateurs, attention, la proposition que les États-Unis sont en train de faire là, ça, ça ne marchera pas. Ou ils peuvent dire, il faudrait appuyer un peu sur tel ou tel point. Ils accompagnent la négociation. Donc, pas possible de se défausser comme on fait d'habitude en disant c'est pas nous à Paris, c'est à Bruxelles ou c'est à Washington. Revenons une minute sur le premier point. Comment qu'elle fait la Commission pour préparer ses recommandations ? Ben, elle envoie des lettres et elle organise des réunions. Je rigole pas, hein, c'est comme ça que ça se passe. Les lettres, elles sont envoyées à toutes les associations humanitaires que vous avez vues dans le Conseil économique transatlantique. Là. Total, Siemens, Paribas, Deutsche Bank, etc. Mais c'est toujours comme ça que ça se fait. Dès que la Commission doit négocier quelque chose, elle demande au monde des affaires et de la finance des suggestions, des propositions. Dites-nous nous allons négocier avec les États-Unis, dites-nous ce que vous souhaitez qu'on demande. Et puis elle organise des réunions. Et donc, il est clair que y a des contacts importants. Alors, maintenant, c'est un petit progrès. On peut poser des questions à la Commission européenne. Parfois, il faut attendre longtemps pour avoir les réponses, même plus qu'une gestation, plus que 9 mois. Mais là, on avait posé des questions. Et on a obtenu des réponses. On leur a demandé, mais combien vous avez tenu de réunions avec le monde des affaires et de la finance ? 119 réunions entre janvier 2012 et avril 2013, c'est-à-dire en moyenne une tous les 4 jours. Mais pas avec les syndicats, pas avec les associations de consommateurs, pas avec les associations de défense de l'environnement, rien qu'avec le monde de la finance et des affaires. De telle sorte qu'on a un peu évalué que ça représentait 65% du mandat. Alors, étape suivante, le calendrier. Comment que ça se passe ? Enfin, plutôt comment ça s'est passé ? Ben, c'est le 14 juin de l'an passé que le Conseil des ministres s'est réuni et a approuvé un texte. Un mandat. Donc ça, c'est la feuille de route, si vous voulez, donnée par les 28 gouvernements. Enfin, on n'était pas encore 28. La Croatie nous a rejoint le 1er juillet, mais elle a accepté évidemment toutes les décisions qui précédait son adhésion, donc on peut dire les 28 gouvernements, ont donc donné leur accord. Retenez bien que tout ce que je vais vous raconter maintenant, ce ne sont pas les Américains qui le demandent, ce sont les Européens, c'est notre gouvernement qui le demande. Moi, je ne sais pas, vous avez... C'est peut-être moi qui suis frappé d'amnésie ou c'est déjà Alzheimer qui arrive, mais en 2012, il y a 2 ans, là, il y avait des élections, non ? Est-ce que vous avez entendu le candidat Sarkozy ou le candidat Hollande ? Moi, président, si je suis élu, eh bien, je donnerai tout mon appui à la négociation d'un grand marché transatlantique. L'a rien dit, ni l'un ni l'autre. Quand Ayrault, le Premier ministre, est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour présenter le programme de son gouvernement, il n'a pas dit à sa majorité et à la représentation nationale, mon gouvernement soutiendra à Bruxelles le projet de négocier avec les États-Unis un grand marché transatlantique. Pourtant tout ça, je vous l'ai bien montré, c'est dans le pipeline depuis 1990. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont donné aucune information, même pas à leur propre majorité. Moi, j'hésite pas à dire qu'ils n'ont pas de mandat pour faire ça. Ni de la représentation nationale, et encore moins de nous. Mais on comprend, hein. On comprend. Le mandat, le voilà. Ça, c'est le document officiel. C'est ce qu'ils ont approuvé le 14 juin. Vous voyez, c'est marqué « Trade sensitive », sensible du point de vue commercial, et au-dessus, là, c'est « circulation restreinte » en anglais. Ce document n'existe officiellement qu'en anglais, et il est secret. Il est secret. Pourquoi ? Parce que justement, si on savait ce qu'il y a dedans, on n'accepterait pas très facilement. Ce qu'il y a dedans, ce sont des bouleversements de nos modes de vie. Ce sont des atteintes majeures à la souveraineté populaire et à la démocratie. Voilà pourquoi c'est secret. De toute façon, est secret quelque chose qu'on ne veut pas que les gens sachent. Donc, quand on a des choses à cacher, c'est plutôt suspect. Donc, il a fallu, heureusement, qu'il y ait à la Commission européenne des fonctionnaires qui ont un autre sens de la démocratie que nos dirigeants. Et il y a eu des fuites. Et grâce à ça, ben, on a eu le document que je viens de vous montrer, qui est en anglais. Donc, il a fallu le traduire. Parce que ce n'est pas dans une langue simple, je vous prie de croire. Hein, ce n'est pas un anglais de sortie de lycée, quoi. Hein. Ce n'est même pas un anglais d'Oxford. C'est un anglais de l'OMC. C'est un anglais avec le jargon de l'OMC. D'ailleurs, dans 5 minutes, je vais vous donner une leçon de vocabulaire. Comment comprendre les mots de l'OMC. Vous allez voir pourquoi. Donc on a eu une première traduction qui ne valait rien du tout. On en a eu une deuxième qui était un peu moins mauvaise. On en a une troisième qui allait mieux, mais en tout cas, moi, j'avais découvert que des phrases entières n'étaient pas traduites, tellement c'est compliqué. Alors j'en ai fait une, c'est une quatrième, c'est la mienne, donc c'est la meilleure. Hein. Alors, si ça vous intéresse, le texte des 46 articles, donc c'est moins que le traité constitutionnel européen qui en faisait 351, hein. Le texte des 48 articles avec un commentaire critique de ma part, après chaque article, il est dans un petit bouquin qui est là. Je ne fais pas de publicité commerciale. J'ai trouvé dans mon coin, à Perpignan, un petit éditeur militant qui a pris tous les risques. Le livre coûte 5 euros et sa fabrication coûte 5 euros. Donc voilà. Et là, vous aurez non seulement le mandat de négociation dans un bon français compréhensible par tout le monde, un commentaire critique de chaque article, plus une introduction historique et plus l'explication d'une des choses les plus terribles qui se trouvent dans ce projet, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Voilà, ça c'était une publicité non commerciale. Après, les négociations ont commencé début juillet. Alors vous vous souvenez peut-être, début juillet, on apprenait que nos partenaires, nos grands amis américains, à travers une de leurs agences de renseignement, la National Security Agency, ça ne devait même pas être elle, hein, National. Ça aurait dû être la CIA, mais en fait, c'est parce qu'ils espionnaient nos ambassades à Washington. Et du coup, on lui a permis à cette agence de sortir des États-Unis et de venir espionner les bureaux de la Commission européenne à Bruxelles. Sympa pour des partenaires. Ça n'a pas empêché que les Européens acceptent que les négociations commencent. Alors, elles se tiennent au rythme d'une semaine par mois. Pendant une semaine, chaque mois, ils se retrouvent, les négociateurs européens et les négociateurs américains, une fois à Washington, une fois à Bruxelles. La dernière fois, ce n'était pas la semaine passée, c'était la semaine d'avant. C'était à Bruxelles. Donc le mois prochain, ce sera en avril, ce sera une semaine à Washington. L'espoir, leur espoir, c'est que ça se termine l'an prochain, en 2015. Voilà. Maintenant, un tout petit peu d'éducation populaire, si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est un accord de libre-échange ? Parce que ce projet, c'est un projet d'un accord de libre-échange, comme il y en a des centaines, mais pas seulement, mais aussi. Donc je dois vous rappeler qu'est-ce qu'on trouve dans tout accord de libre-échange. On trouve deux choses. Alors vous allez déjà voir le jargon. La première chose qu'on trouve, c'est abaisser ou supprimer les barrières tarifaires. Alors en français, les barrières tarifaires, c'est les droits de douane. Ou les tarifs douaniers. Donc l'objectif entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. On y reviendra. Hein. Mais le deuxième objectif de tout accord de libre-échange, c'est d'abaisser ou de supprimer les barrières non tarifaires. Et ça, c'est un des points centraux du projet. C'est un des cœurs du projet. Qu'est-ce que c'est les barrières non tarifaires? Mais on trouve ça dans la Constitution de la Ve République, dans les lois de tout pays, dans les décrets, dans les arrêtés, dans les règlements, quand ça fait norme. Normes sociales, normes sanitaires, normes alimentaires, normes environnementales, normes techniques. Nous avons des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de normes techniques, puisque pour la fabrication de chaque chose, que ce soit une automobile, un moulin à café, une machine à laver, un produit pharmaceutique, un engrais, il y a des normes techniques. Et l'objectif de tout accord de libre-échange entre deux pays, c'est de faire en sorte que toutes ces normes soient compatibles. Alors on va voir l'utilisation de superbes gentils mots, harmoniser les normes, rendre compatibles les réglementations. Parce qu'on ne nous dit pas que la logique de tout accord de libre-échange, ce n'est pas seulement pour celui-ci, c'est d'aller en même temps, au moment où on va essayer de rendre compatibles les normes, vers le plus petit dénominateur commun, vers la norme la plus basse. Parce que pourquoi cette volonté d'aller vers la norme la plus basse et pas vers la norme la plus haute? Mais parce que c'est ce que demandent les entreprises, qu'il y ait de moins en moins d'obstacles à leurs activités, des obstacles sociaux, des obstacles sanitaires, alimentaires, environnementaux ou techniques. Donc l'objectif, c'est d'aller vers la norme la plus faible. Or, déjà comme la situation est maintenant, si on compare les normes sociales, alimentaires, sanitaires, environnementales et techniques en Europe et celles aux États-Unis, pour l'essentiel, il y a des exceptions, mais pour l'essentiel, aux États-Unis, elles sont plus faibles, elles sont moins protectrices. Vous voyez donc ce que ça implique de négocier l'élimination des barrières non tarifaires. C'est un des grands objectifs du projet. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un point suivant. Alors si ça aboutit à la négociation, ce sera un traité. Et en diplomatie, un traité, ça commence par une introduction, mais on n'appelle pas ça une introduction, on appelle ça un préambule. Alors il est dit que dans le mandat de négociation, nos gouvernements souhaitent qu'on dise que dans le préambule, que tout ça va se fonder sur des valeurs communes. Ah ben oui, puisqu'il faut avoir les mêmes normes, il faut nécessairement que nous ayons des valeurs communes, parce que les normes, les choix qu'on fait en matière sociale, en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de services publics, c'est en fonction d'un certain nombre de valeurs que l'on a dans une société. Donc, pour justifier le fait qu'on va faire les mêmes normes, il faut bien évidemment que ça se fonde sur des valeurs communes. Avons-nous des valeurs communes avec les États-Unis? Je ne veux pas faire ici de l'anti-américanisme primaire, ni secondaire, ni tertiaire d'ailleurs, c'est débile. Il y a des choses très bien aux États-Unis. Il y en a qui sont moins. Et chez nous aussi. C'est pas ça le problème. Les États-Unis, c'est une société qui s'est construite par elle-même, qui a formulé ses propres valeurs, qui a débouché sur une manière de vivre ensemble qui est la leur, et j'ai envie de dire, eux c'est eux, nous c'est nous. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Ça ne m'empêche pas de ne pas oublier ce que nous devons au peuple américain, et aussi, entre parenthèses, au peuple russe, pour avoir été libéré du nazisme. Mais ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit de faire un marché unique fondé sur des normes identiques. Alors c'est important de voir si nous avons des valeurs communes. Et moi je fais un rapide inventaire, voilà, sur le rôle de l'État. Parce que j'ai enseigné moi dans une université américaine, donc je connais quand même un petit peu. Nous avons une conception de l'État qui est très ancienne, qui même précède la Révolution. Parce qu'on attendait la même chose des seigneurs et des rois qu'on attend aujourd'hui de la République, notre conception de l'État consiste à considérer l'État comme le gardien du bien commun, de l'intérêt général. D'ailleurs, quand on estime que l'intérêt général est lésé, abîmé, agressé, c'est vers l'État qu'on se tourne. Aux États-Unis, c'est radicalement différent. L'intérêt général est remis dans les mains des individus. Parce que c'est une société fondée sur l'individualisme le plus avancé. Alors qu'est-ce qui se passe quand des individus estiment que l'intérêt général est lésé, parce qu'une, par exemple, une firme pollue la nappe phréatique, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent. Ils organisent une association, on appelle ça un lobby. Et c'est pour ça qu'il y en a tellement aux États-Unis, il y a une véritable culture du lobby aux États-Unis, parce que dès qu'il y a un problème, les citoyens doivent se regrouper, s'organiser, trouver du fric. Pour payer quoi? Un cabinet d'avocats qui va entamer des procédures pour essayer de mettre fin à cette blessure contre l'intérêt général. Vous voyez, c'est totalement différent. C'est d'ailleurs pour ça que, à la différence de l'Europe, on n'a pas cette culture du service public aux États-Unis et qu'on n'a pas inventé comme ça la sécurité sociale. D'ailleurs, regardez M. Obama, il fait presque pitié. Il a fait un cadeau de 30 milliards de dollars aux assurances privées en espérant qu'elles ne l'encombreraient pas pour avoir un petit système de sécurité sociale qu'il n'est toujours pas parvenu à mettre en activité. Première grande différence. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a un rapport très différent à la religion. Vous sortez un dollar, in God we trust. Vous allez dans un bâtiment public, in God we trust. God, il est partout, quoi. Ça fait un climat. Bon, mais c'est assez différent de chez nous. La laïcité n'est pas un concept très connu là-bas. Troisième chose. Et là, c'est très important parce que nous allons parler de conflits entre firmes privées et pouvoirs publics. Le 13 mai dernier, au Parlement européen, les parlementaires de la majorité, ce que j'appelle moi la Sainte Alliance des chrétiens démocrates et des sociaux-démocrates, avant même, le 13 mai, c'est avant le 14 juin, donc avant que le Conseil des ministres adopte le mandat, ils ont sorti une résolution, un texte qui n'a aucune valeur juridique, mais une résolution pour dire il faut y aller, il faut ce grand marché transatlantique. Et là-dedans, ils ont dit, de toute façon, nous avons le même système juridique. C'est faux. En tout cas, c'est faux pour 26 États sur 28. Parce que, certes, la Grande-Bretagne, l'Irlande ont un système juridique identique à celui des États-Unis. Vous savez qu'il y a deux systèmes juridiques dans le monde. Il y a l'anglo-saxon, enfin, né de la Grande-Bretagne et de toutes ses colonies, dont les États-Unis étaient aussi des colonies. C'est ce qu'on appelle la common law, basée sur la jurisprudence. Et puis il y a un autre système qui, nous, est chez nous, qui est né du droit romain, où ce n'est pas la jurisprudence qui a la force, c'est la précision de la règle. Et c'est ce système qu'on appelle parfois romano-germanique en France. Moi, j'aime mieux le terme qui est utilisé dans beaucoup d'autres pays, le droit continental, le système juridique continental, parce que ça recouvre mieux la réalité. C'est le système qui est en vigueur, tenez-vous bien, de Brest à Tokyo. Et oui, au Japon, c'est le même système juridique que nous. Donc on n'a pas le même système juridique que les États-Unis. Sur le droit du travail, je vous parlais tout à l'heure des conventions sociales de l'Organisation internationale du travail, 176 aujourd'hui. Nous, pays d'Europe, la France, nous les avons toutes ratifiées. Ça ne veut pas dire qu'on les respecte parfaitement. Mais quand il y a un problème, eh bien, il y a au moins un texte sur lequel on peut s'appuyer parce qu'on l'a ratifié. On parle donc de normes sociales. Les États-Unis n'ont ratifié aucune convention internationale de l'OMC, de l'OIT. Ça fait une grosse différence quand on va vous dire qu'on va harmoniser les normes sociales entre des pays qui ont adhéré aux conventions de l'OIT et un pays qui ne l'a pas fait. Sur le droit des consommateurs, je ne vais pas m'étendre. Je vous ai donné un exemple quand l'intérêt général est lésé aux États-Unis. Nous avons essayé, c'est encore très imparfait, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais d'avoir dans les législations et dans les réglementations des dispositions qui protègent les consommateurs. C'est aussi différent. Et puis, il y a le rapport au risque. Alors là aussi, c'est radicalement différent. Et ce n'est pas dérisoire pour tous ceux qui... je pense par exemple aux faucheurs volontaires. pour nous, c'est la règle. Hein. Je ne dis pas que c'est parfaitement respecté. Mais un produit ou un processus n'est mis en circulation que quand on a vérifié son innocuité. On appelle ça le principe de précaution. Aux États-Unis, un produit ou un processus est mis en circulation et puis on verra bien ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment la même chose. Sur la protection de l'environnement, vous savez tous comme moi que nous avons ratifié le protocole de Kyoto, les États-Unis pas, que nous avons ratifié la convention de Rio sur le respect de la biodiversité, les États-Unis pas. Sur la culture, ça fut un combat homérique très récent, 2003-2005. Nous avons donc adopté dans le cadre de l'UNESCO une convention internationale qui protège la diversité culturelle, les États-Unis pas. Sur les rapports entre entreprises privées et partis politiques. Alors là, on a une histoire riche, nous, hein, ça c'est vrai, avec beaucoup d'affaires, beaucoup de scandales, beaucoup de corruption, mais finalement, petit à petit, on a quand même adopté des lois, et pas seulement en France, des lois sur le financement des partis politiques, des lois sur le financement des campagnes électorales. Et nous savons, et nous, on le vit maintenant, enfin, ceux qui sont impliqués dans les municipales, qu'il y a un conseil constitutionnel qui valide, ou qui ne valide pas, les comptes de campagne. Aux États-Unis, là aussi, c'est radicalement différent. Le président Obama, quand il a été élu pour la première fois, il a essayé de faire quelque chose. Et donc, il a réussi à faire adopter une loi qui limitait le financement des partis, des candidats par les firmes privées. Seulement, vous savez qu'aux États-Unis, au-dessus du président, il y a quelque chose qui est plus puissant que le président. C'est la Cour suprême. La Cour suprême a cassé la loi. Au nom de la liberté individuelle. Premier amendement à la Constitution des États-Unis. Et donc, n'importe quelle firme privée qui a envie d'avoir à la Chambre des représentants ou au Sénat des gens à elle, ben, elle met le paquet, elle choisit et puis elle paye autant qu'il faut pour le faire élire. Ça fait quand même aussi une certaine différence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont en même temps députés à l'Assemblée nationale à Paris et très proches de certaines firmes privées. Hein. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais vous le savez comme moi, sur des questions comme la peine de mort ou la vente libre des armes, ce n'est pas la même chose. Et puis, je terminerai en évoquant, parce que c'est quand même des sujets importants, nous avons ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Les États-Unis pas, parce qu'ils ne supportent pas qu'un pédophile américain soit jugé en dehors des États-Unis. Un pédophile américain ne pourrait pas être jugé, par exemple, s'il se fait pincer en Thaïlande. Non. Donc ils n'ont pas ratifié la convention. Comme ils n'ont pas ratifié la convention qui crée, enfin le traité qui crée la Cour pénale internationale, parce qu'un génocidaire américain ou qu'un américain qui a commis des crimes contre l'humanité ne peut pas être jugé en dehors des États-Unis. Tout ça, nous avons ratifié, bien entendu, ces textes-là. Tout ça fait, vous en conviendrez quand même, de sérieuses différences. Alors, maintenant, on est sorti du préambule et on entre dans le texte lui-même. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai parlé de l'OMC tout à l'heure. Parce que l'article 2 dit « L'accord sera ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et les obligations de l'Organisation mondiale du commerce. » Il s'agit donc bien d'appliquer les règles et les obligations de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'on n'arrive pas à le faire dans le cadre des négociations de Doha. Et on va même un tout petit peu plus loin dans l'article 3. L'accord prévoira la libéralisation réciproque du commerce des biens et des services, ainsi que des règles sur les questions en rapport avec le commerce. Qu'y a-t-il de règles en rapport avec le commerce? Alors j'insiste, je l'ai mis en rouge, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC, d'aller au-delà. Vous aurez noté dans les deux articles le qualificatif ou le substantif ambition, ambitieux. Ils en veulent, hein, nos gouvernements. Il y a là. Non, mais vous savez, dans ce genre de littérature, les mots ont leur importance. Ça veut dire qu'il y a là la manifestation d'une volonté très forte de la part de nos gouvernements. N'oublions jamais. Alors, vous allez voir mentionner pour la première fois quelque chose qui va revenir de manière plus détaillée par la suite. C'est que l'accord engage tous les niveaux de gouvernement. Et ça veut dire quoi? Ben, pour parler selon la subdivision française, l'État, les régions, les départements, les municipalités. L'accord va s'appliquer de la même manière à chacun de ces niveaux. Et vous verrez, ça va être répété avec force. Alors, la suite, c'est... Mais là, c'est un petit peu le discours officiel, si vous voulez, la motivation publique. L'objectif de l'accord est d'accroître le commerce et l'investissement, ça on avait compris, en réalisant un potentiel qui serait inexploité d'un véritable marché transatlantique, qui va évidemment générer de nouvelles opportunités économiques pour la croissance et pour l'emploi, grâce à quoi ? À un accès accru au marché. Ça, c'est l'expression qui résume « abaisser ou supprimer les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires ». C'est ça l'accès au marché. Et une plus grande compatibilité de la réglementation, c'est ce dont je vous parlais. Et là, vous voyez pour la première fois apparaître le mot « compatibilité de la réglementation ». C'est bien de réduire les normes au plus petit dénominateur commun, mais ça, on ne le dira jamais dans ces termes-là. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, et je ne vais pas dire en guise de respiration, parce que ce n'est vraiment pas le cas, il faut que je vous rappelle, puisqu'on est maintenant bien informé qu'il s'agit d'appliquer complètement et au-delà les accords de l'OMC, il faut que je vous rappelle deux principes qui sont dans les accords de l'OMC. Premier principe, le traitement de la nation la plus favorisée. Alors c'est quoi ça ? Je vais vous donner un exemple concret, c'est plus simple pour comprendre. Vous savez que le coton, c'est quand même assez important, on en a besoin. Et pourtant, en Europe, on n'en produit pas beaucoup. Un petit peu dans les Bouches-du-Rhône, un petit peu dans la vallée du Pô, un petit peu en Espagne, un petit peu en Grèce, mais très peu, trop peu. Donc, il nous en faut en importer. Et il se trouve que dans des pays que nous connaissons bien, puisque nous les avons colonisés, en Afrique de l'Ouest, par exemple, on a là un espace de gros producteurs de coton. Sénégal, Burkina Faso, Mali. Et donc, nous avons décidé à un moment, pour favoriser l'échange et l'importation de coton d'Afrique de l'Ouest, nous avons décidé qu'il y aurait 0% de taxes, pas de droits de douane, pas de barrière tarifaire, donc, sur le coton d'Afrique de l'Ouest. C'était sympa, jusqu'au moment où les règles de l'OMC sont entrées en vigueur. Parce qu'en vertu du traitement de la nation la plus favorisée, si vous accordez 0% de droits de douane sur le coton d'Afrique de l'Ouest, vous devez accorder 0% de droits de douane sur le coton de tous les pays du monde. Ça veut dire une énorme perte de recettes. Ça veut dire que, ou bien on le fait, d'accord, ou bien on ne le fait plus du tout. Retenez bien ceci, parce qu'on va parler d'agriculture dans deux minutes, et ça va avoir son impact. Une autre contrainte de l'OMC, c'est le traitement national. Alors, le traitement national, ça n'a rien à voir avec ce que Marine Le Pen peut raconter. Hein. C'est le contraire. C'est qu'il faut traiter, par exemple, le fournisseur de services étrangers de la même manière qu'on traite ses propres fournisseurs de services. Le traitement national, je vais vous donner un exemple. Imaginons, ce n'est pas le cas, qu'on dise... Les accords de l'OMC s'appliquent à l'enseignement universitaire. Et donc, entre dans le cadre de l'accord transatlantique. Imaginons que les 15 plus grandes universités américaines décident de s'installer en France. En vertu de ce principe, ce que la France consent financièrement pour faire fonctionner ses universités, je parle des universités publiques, elle sera tenue d'accorder la même chose aux 15 universités américaines. C'est ça, le principe du traitement national. C'est impossible. C'est impossible. Alors, imaginons, la France refuse. Donc, le conflit est porté à l'OMC, pour le moment. Si on signe ce machin-là, ce sera dans ce cadre-là. Elle va perdre, puisqu'elle ne respecte pas la règle. Alors elle aura le choix, payer des compensations, vous imaginez, des centaines de millions, si pas des milliards de dollars, ou supprimer la règle. Mais supprimer la règle, en l'occurrence, ça veut dire quoi ? Ne plus financer ses universités, ça veut dire les privatiser. Cette machine-là, c'est la machine infernale, diabolique, que nos gouvernements, parce que ce sont nos gouvernements qui ont négocié les accords de l'OMC, que nos gouvernements ont inventé pour forcer à la privatisation des services publics. C'est de ça dont il s'agit. Et je vous donne l'exemple en bas. Si on subventionne une école française, il faut subventionner de la même manière l'école américaine qui vient s'installer en France. On ne pourra pas le faire. Donc, on mettra fin au financement de l'école française. Ça veut dire privatiser. Vous pouvez étendre ça à la santé, à toutes les activités de service. N'oubliez pas non plus le principe du traitement national. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne se souviendraient pas, les accords de l'OMC... Ce sont trois grands accords, l'accès au marché, avec déjà une série d'engagements, donc en matière d'agriculture, de réglementation sanitaire, n'oubliez pas pour tout à l'heure, textiles, vêtements, produits, mesures concernant les investissements, mesures anti-dumping. Premier paquet. Deuxième paquet, c'est le fameux accord général sur le commerce des services, l'AGCS, qui est la machine à privatiser toutes les activités de services dans le monde. Avec déjà des accords en matière financière, en matière de transport, en matière de télécommunications, je pourrais aussi ajouter en matière d'énergie, et puis un accord sur les droits de propriété intellectuelle. Maintenant, petite leçon de vocabulaire. D'abord, quand on parle de règles dans un texte comme celui-là, ce n'est pas une règle. Ce sont des dispositions pour supprimer les règles qui existent. Ce n'est pas la même chose. Au motif que ces règles sont des obstacles inutiles à la concurrence. Quand vous verrez le mot « discipline », mais ça ne fait pas référence à ce que vous pensez, c'est-à-dire être obéissant, hein, de le dire comme ça. Non, les disciplines, ce sont des inventaires. Ce sont des énumérations de règles, qu'il s'agisse de commerce des services, d'investissement, de marché public, de vente de biens et de produits, de marchandises. Mais ce sont... Des inventaires de règles qui sont considérées comme plus rigoureuses qu'il est nécessaire. Et donc il faut éliminer. Interdire le bœuf aux hormones de croissance, c'est plus rigoureux qu'il est nécessaire. Ne pas aimer le poulet chloré, c'est plus rigoureux qu'il est nécessaire. Donc voilà, ça ce sont les disciplines. Puis il y a la transparence. Alors la transparence, à peu près la moitié de la définition, c'est ce que nous connaissons, c'est pas compliqué, c'est de faire connaître tout ce qui existe en matière de législation et de réglementation, rien à redire là-dessus. Mais on y ajoute, soumettre, dans ce cas-ci à l'OMC, mais dans le cas qui nous intéresse, à une structure qui va être créée dans le cadre transatlantique, soumettre les nouvelles dispositions qu'on a l'intention de prendre. On ne nous dit jamais que depuis le 1er janvier 1995, dans les matières où on a pris des engagements à l'OMC, avant de voter une loi à Paris, à Berlin, à Rome ou ailleurs, on la soumet à l'OMC pour voir si elle est conforme aux accords de l'OMC. Vous voyez, on a abandonné la souveraineté, on ne nous a jamais parlé de ça. Hein. Évidemment, les négociations de l'OMC se sont déroulées dans un secret beaucoup plus grand que celui qui préside la négociation actuelle. Et puis, il faut qu'on se mette d'accord sur les services. De quoi parle-t-on quand on parle de service ? Alors là, je reprends la définition de l'article 1, paragraphe 3 de l'accord général sur le commerce des services. Et vous allez voir, nos gouvernants, là, ça s'est négocié entre 86 et 94, mais surtout entre 89 et 94. C'est-à-dire quand en France, les premiers ministres appelaient Rocard, Cresson, Bérégovoy et Balladur après. Donc ils disent les services c'est tous les services de tous les secteurs, comme ça on n'oublie personne. D'ailleurs, ce que je vous raconte, vous pouvez le vérifier vous-même, hein. Vous allez sur internet, vous faites www.omc.org et puis vous allez pousser sur enter, hein. Mais attention, juste avant, hein, prenez un tube d'aspirine, parce que dès que vous aurez cliqué, il y a 22 500 pages qui arrivent. Et oui, 22 500 pages que nos parlementaires ont ratifiées en décembre 1994. Vous pensez qu'ils les ont lues ? Et là-dedans, il y a AGCS. Alors, vous allez voir la nomenclature. Il y a 12 secteurs et 160 sous-secteurs. Les 12 secteurs, c'est finance et assurance, énergie, transport. Alors, ils ne disent pas enseignement parce que tout ça, c'est en anglais. Et en anglais, on dit education, donc ça devient éducation. Et puis il y en a un douzième, divers. Comme ça, on est sûr de ne rien oublier. Et si vous allez dans le sous-secteur éducation, vous allez trouver tous les niveaux d'enseignement possibles et imaginables, et puis à la fin, divers. Comme ça, on est sûr de rien oublier. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai souligné à l'exception. Et là, j'aime bien te raconter une petite anecdote, surtout depuis dimanche. Parce qu'en 2003, j'étais invité à Quimper pour un débat contradictoire avec le député maire de Quimper. Il s'appelle M. Bernard Poignant. Il est le conseiller spécial du président de la République aujourd'hui. Il a subi une dégelée dimanche. Et ça me fait bien plaisir parce que M. Poignant, en 2003, il avait publié un livre pour dire tout le bien qu'il fallait penser de la GCS. Et il m'avait attrapé. On avait un débat contradictoire. Il m'avait dit, mais Monsieur Genère, vous voyez, il y a une exception dans la définition. Vous faites peur aux gens. Vous laissez entendre qu'on va privatiser les services publics. Mais ce n'est pas vrai. Regardez, il est mis à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Vous voyez bien, les services publics, ils sont protégés. Il ne savait pas que je connaissais bien mes textes. Alors j'ai été poli, mais j'ai dit, monsieur le député maire, virgule, il y a deux manières de ne pas dire la vérité. Il y a une première manière qui consiste à dire la chose qui n'est pas. Vous voyez que je dis poliment. Hein. Et il y a une deuxième manière, c'est par omission. Vous oubliez de donner la définition complète qui est dans le texte. Qu'est-ce que c'est un service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental? C'est un service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, donc qui est gratuit, ni en concurrence, donc qui est en monopole. Vous en connaissez beaucoup? Ben oui, les ministères, les services régaliens de l'État, et encore, vous savez comme moi maintenant, quand on parle du ministère de la Justice, qu'à côté des prisons publiques, il y a des prisons privées. Et le ministre de l'Intérieur, là, au mois de janvier, qu'est-ce qu'il disait? Je vais faire appel de plus en plus à des sociétés privées de gardiennage pour suppléer le manque de policiers. Comme dit le journal Le Monde, le périmètre de l'État se rétrécit. Enfin, voilà pour ce qui est la définition des services. Alors maintenant, on entre vraiment dans l'examen chapitre par chapitre du mandat. Et si vous êtes resté devant votre ordinateur avec l'OMC... que vous avez, imaginons, la table des matières, vous allez être tout à fait surpris de voir que les titres de la table des matières et les titres des chapitres du projet européen de grand marché transatlantique, ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Et donc on commence par l'accès au marché. Et l'accès au marché, premier élément, ce sont les droits de douane. Hein, ce sont les fameuses barrières tarifaires. Et bien donc, voilà ce que nous dit le texte. Le but sera d'éliminer toutes les obligations sur le commerce avec l'objectif d'éliminer une élimination substantielle des droits de douane et une suppression progressive de tous les tarifs douaniers. Alors là, il faut que je vous dise quand même quelque chose. Parce que la plupart des journaux qui ne parlent pas beaucoup de tout ça, le 15 ou le 16 juin de l'an passé, ils ont dit, après l'accord de Bruxelles, ils ont dit, mais ça, c'est pas grave, il n'y en a plus. C'est vrai, pour l'essentiel. Il n'y a pratiquement plus de droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne, sauf en matière agricole. Et là, ils sont importants. Et donc, on va s'attaquer aussi aux droits de douane en matière agricole. Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure à propos du principe de la nation la plus favorisée? Si on accorde 0% de droits de douane aux produits agricoles américains à l'entrée en Europe, en vertu du principe de la nation la plus favorisée, puisqu'on applique les règles de l'OMC, eh bien il faudra accorder 0% de droits de douane sur tous les produits agricoles du monde entier. Mais vous vous imaginez ce que ça veut dire? On va devenir... le marché le plus ouvert au monde, on n'aura pas seulement le tsunami du seigle, du soja et du blé américain génétiquement modifié, mais on aura tous les autres produits sans que la réciprocité soit vraie. Parce que on n'a pas d'accord de libre-échange nécessairement avec d'autres pays, hors États-Unis. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est quoi ce bruit? Deuxième conséquence... Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole, mais j'ai un ami qui est un expert de haut niveau, un vrai celui-là. Pas un mec qui travaille pour Monsanto ou des bandits comme ça. Non, il est prof à Toulouse et il conseille régulièrement la Confédération paysanne. Nous sommes collègues au sein du conseil scientifique d'attaque. Il s'appelle Jacques Berthelot. Et Jacques Berthelot, il a fait une étude, donc qui figure parmi les documents que je vous enverrai. Hein. Il a fait une étude produit agricole par produit agricole. Donc tous les dérivés du lait, toutes les viandes, toutes les céréales, enfin tout. Et il a regardé chaque droit de douane parce qu'il varie d'un produit à l'autre. Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence? Et il est arrivé à une conclusion globale qui est effrayante. Après, c'est pas comme le rapport de 6 pages. Hein. Lui, il a fait un machin, vous verrez des tableaux, il a vraiment décortiqué les conséquences. Et il arrive à la conclusion que vous avez sous les yeux. Mais que pour réagir à cette déferlante américaine, l'agriculture européenne va devoir davantage encore s'industrialiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on industrialise encore plus l'agriculture? Ben, ça veut dire des pertes d'emplois. Énormes. Ça veut dire qu'on fait plus encore d'agriculture intensive, donc plus encore d'engrais, plus encore de pesticides. Et ça veut surtout dire la perte, l'abandon d'un objectif qui est quand même éminemment respectable des circuits courts entre producteurs et consommateurs. Et il n'hésite pas de conclure en disant, si ça se fait, ça provoquera un véritable séisme économique, social, environnemental et politique sans précédent. Voilà pour les droits de douane et l'agriculture. Chapitre suivant, le commerce des services. Eh bien, là, c'est l'application de la GCS. On part des engagements existants et on va aller plus loin puisque c'est avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À l'OMC, non seulement il faut l'unanimité pour décider, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Donc, il s'est prouvé dans les négociations du cycle de Doha qu'à un moment, les pays industrialisés ont passé des accords entre eux. Mais comme il n'y avait pas d'accord global, ces accords sont gelés, si vous voulez. Il y a un accord sur la GCS qui a été fait à Hong Kong en 2005 lors d'une conférence ministérielle. Je l'ai décortiqué, je l'ai analysé, la santé et l'éducation sont dedans. Vous avez le lien si vous voulez trouver mon analyse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui a déjà commencé, parce que il m'est arrivé souvent dans mes conférences que des gens me disent au moment du débat, oui mais ça a déjà commencé, on est déjà là-dedans. C'est vrai. C'est vrai, c'est en vertu des accords de l'OMC, mais quand ça vient de la Commission européenne, elle ne dit pas « j'applique les accords de l'OMC », et donc on pense que c'est la Commission européenne qui a cette volonté-là, même si elle est tout à fait d'accord. Hein. Mais quand la Commission européenne, comme par exemple en novembre dernier, elle demande au gouvernement français accélérer la libéralisation du rail pour les passagers, et c'est l'application de l'accord de l'OMC sur la GCS en matière de transport ferroviaire. Et là, on a déjà avancé très loin, puisque transport aérien, transport ferroviaire, transport maritime, tout ça c'est déjà libéralisé, la finance c'est très largement libéralisé, l'énergie c'est très... S'il n'y avait pas eu l'accord de l'OMC, EDF, GDF existerait toujours. C'est une application de ça, via l'Europe. Et bien ça va continuer dans des secteurs qu'on n'a pas encore touchés, comme l'éducation, comme la santé... Et puis, ben bon, j'en ai énuméré quelques-uns, et vous noterez que j'ai mis la sécurité sociale. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi, depuis quelques mois, il y a tant de publicité à la télé pour les assurances? Elles savent ce qui se prépare. Alors, elles seront, si on applique ça, en position de dire... Oui, mais l'État finance un système public d'assurance avec la Sécu. Nous sommes en mesure d'exiger d'être traités de la même manière. Ce sera impossible. Ça, c'est la voie vers la privatisation de la sécurité sociale. Voilà. Ça va? Fait chaud? C'est chaud. Je sais pas s'il fait chaud, mais c'est chaud. Bon, on continue, hein. Alors, je vous ai pas raconté une petite histoire tout à l'heure, c'est plutôt un rappel de mémoire. En 1997, il y a une rumeur qui circule. C'est qu'il y aurait une négociation ultra secrète sur un projet assez terrible, mais on sait rien. Un député vert, monsieur Yves Cochet, pose une question à l'Assemblée nationale, au ministre de l'économie et des finances, un certain Strauss-Kahn, qui répond, mais monsieur le député, rassurez-vous, tout va bien, sur le style, dormez en paix, bonnes gens, on s'occupe de votre bonheur. Hein. Et il dit déjà, ce sera bon pour la croissance et pour l'emploi. C'est vrai que chaque fois qu'on veut nous passer la corde au cou, c'est bon pour la croissance et pour l'emploi. Hein. C'est devenu une habitude. Mais heureusement, grâce à des camarades canadiens, il y a des fuites. Et on apprend le contenu. Ça s'appelle Accord multilatéral sur l'investissement, AMI. C'est monstrueux. Il y a une campagne qui se met en route. D'abord dans les milieux culturels, et puis dans les milieux syndicaux, et puis ça se généralise. Un peu comme ce qu'on essaye de faire maintenant. Et on découvre que les parlementaires de la majorité de l'époque, ça s'appelait la gauche plurielle, ils sont pas au courant, comme maintenant. Et donc, il y a tout un effort pour les mettre au courant. Puisque le gouvernement ne les met pas au courant, ben ce sont les citoyens qui se mobilisent pour les mettre au courant. Résultat des courses, une fois qu'ils sont au courant, vu la monstruosité du projet, ils vont dire à Jospin, ben non, ça, on pourra jamais voter. Si vous venez avec ça pour qu'on le ratifie, ça ne sera pas possible. Et Jospin est obligé de retirer la France de la négociation. Patatras, la AMI, c'est par terre. Il est mort. Mais vous savez, dans les milieux du commerce et de la finance mondiale, ils lisent beaucoup la Bible. Ils savent comment on fait la résurrection. Eh bien, l'AMI, il est de retour, il est ressuscité. Il est ressuscité dans l'article 23. Le voilà. Alors d'abord, c'est marrant, hein, je vous dis, il est ressuscité dans l'article 23, je vous montre l'article 22. Parce que c'est le début du chapitre sur l'investissement. C'est vrai qu'il fait chaud, hein?
Moi, je vais enlever ma veste. Ça ne me dérange pas? C'est vrai aussi que je m'échauffe un peu, là.
Bon. Donc, qu'est-ce que nous dit l'article 22, qui est une sorte d'introduction, mais ce n'est pas inintéressant de le lire. Il nous dit qu'il faut libéraliser l'investissement et protéger l'investissement. Alors, libéraliser l'investissement, attention, ça veut dire quoi? Supprimer toutes les règles, toutes les lois qui contrarient la liberté pour un investisseur d'investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ça. J'invente pas, hein. Le PDG de l'American Express a dit exactement ce que je viens de vous dire. Nous attendons qu'un investisseur puisse investir ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut. Et protéger l'investissement, c'est la fin de la citation, c'est qu'on ne touche pas aux bénéfices de l'investissement. D'aucune manière. Donc, ce principe-là, nos gouvernements le mettent dans le mandat. Après, ils nous disent, il faudra inclure dans la négociation, en particulier, mais pas exclusivement, ça c'est un peu de la nature du divers de la GCS, là, hein, on va vous dire une série de choses qu'il faudrait mettre dedans, mais si on n'a pas tout mis, on pourra mettre aussi des choses qu'on n'a pas dites et qu'on aurait oubliées. Hein. Et alors, les voilà les choses. D'abord, il faudra traiter de manière juste et équitable, hein, les investisseurs, y compris avec pas de mesures déraisonnables. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Et puis, le traitement national. Vous vous souvenez? Le traitement de la nation la plus favorisée. Protéger l'expropriation directe et indirecte. Ça veut dire plus possible d'exproprier. Plus possible, a fortiori, de nationaliser. Hmm? Et puis, s'il y a des troubles, il faudra, les États s'engagent à protéger les investisseurs et les investissements, les chars, les barbelés, tout ça, quoi. Et puis, tout ce qui n'est pas là, on pourra le mettre des propositions efficaces dans des clauses générales. Et le dernier point, qui est une démonstration de la protection de l'investissement, donc il faudra garantir le libre transfert des fonds de capital et les paiements par les investisseurs. Là, je vous donne un exemple concret. Parce que nous, on n'a pas toujours appliqué pour le moment tous les accords de l'OMC, mais il y a des pays qui ont été un peu plus loin que nous. Je prends par exemple le Brésil. Il y avait au Brésil une loi qui a obligé tout investisseur étranger à réinvestir 10% du bénéfice net de l'exercice antérieur. 10%. Pourquoi? Mais d'abord pour éviter les investissements spéculatifs qui ne font que passer, pour pérenniser l'investissement et surtout pour pérenniser l'activité que représentait l'investissement. Eh bien, il s'est trouvé un investisseur américain qui a trouvé que ça, c'était une entrave intolérable à son droit et à sa liberté d'investir, qui a demandé au gouvernement des États-Unis d'attaquer le Brésil devant l'OMC. Évidemment, le Brésil a perdu. Alors, le Brésil avait le choix de payer des compensations à l'investisseur américain ou de supprimer sa loi. Il a supprimé sa loi. Donc ce truc-là, si on a, si la négociation aboutit, on l'aura entre États-Unis et Europe. Conséquence de tout ça, avant d'aller plus loin. Mais je vais utiliser une expression qui est plus à la mode. Politique industrielle. Ça, c'est ringard. Hein. Aujourd'hui, c'est le marché qui décide. Hein, vous savez, la main invisible, là. Hein. Ce ne sont pas les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont censés ne plus dire à un investisseur étranger, allez investir là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, il y a un désert industriel, plutôt que là. Ça, c'est pas possible. Ça ne sera plus possible avec tout ce que vous venez de voir. Une politique industrielle ne sera plus possible. Réfléchissons un instant. Notre planète est à la veille d'une catastrophe majeure. On est en train de la détruire au-delà de toute proportion. C'est au mois d'août maintenant qu'on a fini de consommer ce que la planète peut produire et rendre. Si on veut lutter efficacement contre les changements climatiques, il faudra encadrer les industries. Il faudra une politique industrielle. Mais au moment où ça va être indispensable, on nous enlève l'outil des mains. Et n'oubliez pas cette fameuse définition de la liberté de l'investissement, parce qu'elle va porter aussi sur le temps de travail, sur les salaires différés, sur les conditions de sécurité et d'hygiène. Un investisseur, vous savez, on n'a pas du tout les mêmes normes entre les États-Unis et l'Europe. Un investisseur américain va pouvoir s'appuyer sur les normes réduites à peu de choses pour demander que ça se passe chez nous comme chez eux. Alors voilà maintenant l'AMI. Ça, c'est l'article que Jospin a été obligé, pour lequel Jospin a été obligé de retirer la France de la négociation en 98. Qu'est-ce que c'est? On vous dit, on va créer un mécanisme de règlement des différends investisseurs-État. Ça veut dire que chaque fois qu'il y aura un conflit entre un investisseur et l'État, et je donne tout de suite la suite de l'article, l'État, c'est aussi toutes les autorités infranationales et des autorités comme les États ou les municipalités. Hein? Mais chaque fois qu'il y aura un conflit entre un investisseur et l'État, la région, le département ou la municipalité, parce qu'il y aura une législation ou une réglementation qui plaira pas à l'investisseur, pour régler le conflit, ça ne se fera plus devant le tribunal du commerce ou le tribunal administratif, ou le Conseil d'État, ou le Conseil constitutionnel. Non, ça se fera devant un mécanisme de règlement des différends. C'est quoi ça? Ben, en France, on est un petit peu préparé à comprendre. C'est le groupe d'arbitrage dans l'affaire Tapie. C'est-à-dire qu'on remplace les tribunaux par des personnes privées qui se réunissent et qui décident. Moi, j'ai lu quelque part l'utilisation de l'expression tribunal administratif, tribunal arbitral. C'est pas un tribunal. Un tribunal, c'est d'abord une institution permanente. Un groupe d'arbitrage, c'est créé au cas par cas. Ça fait déjà une grosse différence. Un tribunal, c'est constitué de magistrats, formés, encadrés par des lois. Un groupe d'arbitrage, c'est composé de personnes privées choisies par les parties, souvent des avocats d'affaires internationaux, hein, à 5000 dollars l'heure. Un tribunal administre la justice en public. Un groupe d'arbitrage délibère à huis clos, dans le secret. Un tribunal, une fois qu'il s'est prononcé, en tout cas en première instance, si on n'est pas d'accord, on peut aller en appel. Un groupe d'arbitrage privé, une fois qu'il s'est prononcé, c'est immédiatement exécutable et en dehors de toute possibilité d'appel. Vous voyez la différence ? Est-ce qu'il ne vous semble pas que le rêve de David Rockefeller est un peu là ? De transférer au pouvoir privé le choix de décider des normes qu'on accepte et qu'on n'accepte pas ? Alors, ici, c'est en matière d'investissement. Je pourrais vous montrer, mais vous gagnez un petit peu de temps parce que je cause déjà depuis 1h15, dit mon ordinateur. Il y a un article 32 qui dit que ça s'appliquera aussi aux normes sociales et environnementales. Et je vous montrerai quand même l'article 45 qui s'applique à tout. Alors, conséquence, c'est ce que je viens de vous dire. On va donner à des structure privée agissant au cas par cas le pouvoir de contester les normes. Exemple, ben Chevron pourra très bien demander un groupe d'arbitrage contre la loi française qui interdit la prospection du gaz de schiste. Philip Morris pourra très bien demander qu'on supprime les mentions sur les paquets de cigarettes de tabac tu. Et la National Rifle Association, le grand lobby des ventes d'armes américaines, pourra dire vos législations sont bien trop restrictives, il faut permettre le libre commerce des armes. Je précise que les industries d'armement ne tombent pas dans le cadre de l'accord. Là, les États ont voulu que ça reste en dehors, mais pas le libre commerce des armes. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, je passe à un chapitre suivant. C'est une grosse tartine. Ça concerne les marchés publics. Alors, je vais lire avec vous rapidement. L'accord visera à accroître l'accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs, national, régional et local, et dans le secteur des services publics, couvrant les opérations pertinentes d'entreprises opérant dans ce domaine, et assurant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs établis localement. Ça, c'est le traitement national. L'accord doit également inclure des règles, donc des dispositions qu'il faut faire disparaître parce qu'elles sont inutiles à la concurrence, et des disciplines, des dispositions, des règles qui sont plus rigoureuses qu'il est nécessaire, pour surmonter les obstacles qui ont un impact négatif sur les marchés publics, y compris les exigences de localisation et les exigences de production locale. Un exemple concret. Imaginons que la municipalité de Rodez décide de lancer un appel d'offres pour les cantines scolaires et qu'elle mette dans son appel d'offres le fournisseur devra s'installer ou installer au moins des bureaux sur le territoire de la commune de Rodez. Et il devra faire appel à des fournisseurs locaux, de préférence bio. Exigence de localisation, exigence de production locale. Alors s'il y a un Sodexo américain qui surgit, eh bien, et s'il y a ça dans l'appel d'offres, il va demander au secrétariat qui va exister de constituer un groupe d'arbitrage privé pour faire disparaître ces exigences-là de l'appel d'offres de Rodez. Vous voyez où ça va? C'est un exemple local, mais j'aurais pu le prendre au niveau de l'Aveyron, ou bien au niveau de la France, ou même au niveau de l'Europe. Alors, je vais passer vite sur le point suivant, parce que sinon je vais prendre trop de temps. J'en arrive aux réglementations, c'est-à-dire l'aspect non tarifaire de l'accès au marché. Et là, le principe est répété. On va éliminer, parce que eux, ils appellent ça des obstacles, les obstacles inutiles, les obstacles non tarifaires existants, avec un niveau ambitieux de nouveau, de compatibilité de la réglementation des biens et des services. Et là, on parle de reconnaissance mutuelle et d'harmonisation. Et on est plus précis. Ils abordent quatre matières qui sont particulièrement visées. Les mesures sanitaires et phytosanitaires. Vous vous rappelez tout à l'heure, dans les accords de l'OMC, il y en a une réglementation sanitaire. Il faut savoir qu'il y a ça existe, et qu'il y a déjà un accord vétérinaire entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc, ils vont s'appuyer là-dessus pour aller au-delà. Alors, j'attire spécialement votre attention. Ceci est un résumé. Donc, ce n'est pas le texte comme il est. C'est moi qui l'ai résumé parce qu'il est long. Mais, avec l'exigence que les protections soient basées sur des preuves scientifiques, ce sont les Européens qui écrivent ça. Alors que ce sont les Américains qui le demandent. Nous savons très bien que l'agrobusiness américain estime que le bœuf aux hormones, le poulet chloré, le porc à l'arachnopamine, les OGM, pour eux, ce n'est pas fondé scientifiquement notre opposition. C'est du protectionnisme, c'est du fantasme, tout ce qu'on veut, mais pour eux, ce n'est pas sérieux. Mais c'est dans un texte européen qu'on dit qu'il faudra que ce soit fondé scientifiquement. Donc, dans un texte européen, on va déjà à la rencontre de ce que demandent les Américains. Deuxième chose, ce sont les réglementations techniques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, et on y trouve beaucoup de choses. Je ne sais pas, oui. Oui, peut-être. Enfin, je ne sais plus. sur tous les produits. Je prends une bouteille ici parce que d'habitude, il y a un encadré avec des signes kabbalistiques qui se prétendent nous dire ce qu'il y a dedans, comment ça a été fait. Ça, c'est ce qu'on appelle des exigences de marquage. On en a. Pas assez, trop confuse. On aimerait bien, plutôt que d'avoir des codes, savoir ce que ça signifie. Mais on a déjà ça. Eh bien, qu'est-ce que dit dans une note de négociation qui a été envoyée aux 28 États membres, la Commission européenne? Les exigences de marquage doivent être limitées à ce qui est l'essentiel et le moins restrictif pour le commerce. Donc ce qu'on a, c'est déjà trop. Troisième matière, alors là, ce sont des disciplines, donc c'est la cohérence de la réglementation, donc, et on nous dit qu'ici, elles vont être transversales. Donc on va dans la négociation mettre des catalogues de réglementation qui s'appliquent de manière transversale, donc indifféremment, et qu'il faudra faire disparaître. Et puis la quatrième matière, là c'est clair, ce sont les secteurs où on est certain qu'on va essayer de descendre les réglementations au plus bas. L'automobile, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, alors vous aurez noté la formulation, les industries de la santé, parce que pour ces gens-là, la santé c'est une industrie, les technologies de l'information et de la communication, les services financiers. Là, on est sûr, certain, qu'ils vont s'attaquer jusqu'à la moelle aux réglementations. Conséquence, eh bien, conséquence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on réfléchit un tout petit peu à qu'est-ce que c'est toutes ces réglementations, toutes ces normes que nous avons dans différents domaines, c'est ce que de génération en génération, depuis longtemps, depuis parfois des siècles, je ne sais plus maintenant si je l'ai dit aujourd'hui ou si je l'ai dit hier, mais enfin je le répète, parce que je dis tous les jours la même chose quand même, mais nous avons encore dans notre législation, et pas seulement d'ailleurs en France, mais aussi en Belgique, puisque la Belgique fut française à un moment, des lois qui sont en vigueur et qui portent 12 vendémiaires en 3. Donc je peux dire depuis des siècles, tout ce que nous avons décidé ensemble, à travers ceux que nous avons élus, qui nous ont gouvernés, des textes qu'on a adoptés, puis qu'on a modifiés, qu'on a améliorés, qu'on a parfois supprimés. Pour faire quoi? Ben pour faire société. Pour ce qui fait notre vouloir vivre ensemble. C'est la partie sociétale de l'individu que chacun nous sommes, mais nous sommes aussi un individu collectif. Mais c'est à ça qu'on s'attaque. C'est à ça qu'à travers cette volonté d'éliminer les barrières non tarifaires, on s'attaque, c'est-à-dire sur nos choix de société. Alors, vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure, notre gouvernement, pas plus que les 27 autres, n'ont eu aucun mandat pour faire ça. Ça aurait au moins mérité un référendum, non? Alors, je vais passer sur les droits de propriété intellectuelle parce que je voudrais arriver vite à la fin et qu'on commence à discuter. J'y reviendrai si ça vous intéresse. Non, mais les droits de propriété intellectuelle, quand on entraîne ce qu'on pense, surtout quand on pense aux brevets en matière de santé, en matière d'OGM, hein, parce que Monsanto ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait s'il n'y avait pas les brevets. Hein. Mais ça, on y reviendra si vous voulez. Alors quand même, hein, nous sommes dans le pays du Marsillac. Moi, je suis un grand amateur de vin. J'ai fait un petit bouquin en 2007 qui s'appelait « Menace sur la civilisation du vin ». Parce que les gens de Bruxelles, la commissaire européenne à l'agriculture, une Danoise, une Carlsberg, quoi, une buveuse de bière, hein, elle avait sorti, mais tenez-vous bien, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait en une semaine, je maîtrisais le dossier sur le bout des doigts, j'ai fait en une semaine un bouquin de 75 pages pour m'opposer aux propositions. Ouais, je n'ai pas été tout seul hein, après. Mais bon, qu'est-ce qu'elle proposait? Arrachage de 400 000 hectares de vignobles, dont la moitié en France. Modification des règles, œnologiques, des règles de vinification pour pouvoir permettre des additifs chimiques génétiquement modifiés comme ça se passe aux États-Unis. Oui, mais quand j'ai vu que sur un texte de 46 articles, il y en a un tout entier consacré au vin, je me suis dit, catastrophe, c'est l'article 35. L'accord devrait examiner, étoffer et compléter les accords commerciaux existants tels que l'accord entre l'Union européenne et les USA sur le commerce du vin. Or, on sait déjà ce qu'il y avait dans l'accord de 2005 avec les États-Unis. S'il y a des additifs, si on peut mettre des copeaux maintenant, c'est à cause de ça. Parce qu'aux États-Unis, je ne dis pas qu'on fait que de la piquette, aux États-Unis, au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je ne dis pas ça. Mais ils ont des modes, ces gens-là. Ils aiment bien avoir une année du vin qui sent la rose ou la fraise, et l'année suivante la framboise, et puis l'année d'après la cerise. Et ils mettent des additifs chimiques, génétiquement modifiés. Et ils veulent pouvoir vendre ça chez nous et appeler ça du vin. C'est quand même grave, non ? Il faut faire gaffe. Alors, l'article qui suit, il est méchant. Il est très méchant. J'ai même envie de dire, ben, avant de le lire, rappelez-vous ce qu'écrivait ce grand écrivain italien Dante dans la Divine Comédie. Qu'est-ce qu'il a écrit sur le portique de l'entrée de l'enfer ? Enlevez ici toute espérance. C'est l'article sur l'énergie. Contentez-vous de lire la dernière ligne que j'ai soulignée. L'accès libre et durable aux matières premières. Ça veut dire que nos gouvernements ont décidé d'abandonner toute espèce de souveraineté publique sur notre sol et notre sous-sol. C'est scandaleux. Nous n'aurons plus la maîtrise de notre sol et de notre sous-sol puisqu'il faudra en garantir l'accès libre et durable à qui ? Aux firmes privées, bien entendu. Ça veut dire que toute lutte pour empêcher l'exploitation du gaz de schiste, si ça passe, c'est fini. C'est fini. Et d'autres matières premières. Hein. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Simplement pour vous dire que je me demande si parfois, dans la tête de ceux qui nous dirigent, Alzheimer n'a pas commencé, ou alors ils ont des accès d'amnésie, parce qu'ils nous écrivent un article qui dit qu'il faut la libération entière des paiements courants et des mouvements de capitaux, comme s'il n'y avait pas eu en 2008 une crise financière mondiale catastrophique dont ils n'ont manifestement tiré aucune leçon. Faut continuer comme avant. Transparence, je ne m'étends pas, c'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc on arrive maintenant à la fin. Il reste à vous montrer deux articles. Alors j'aime bien de faire une petite digression en rappelant que les Romains avaient l'habitude de dire en latin « in cauda venenum », ce qui fait souvent rire les dames quand je traduis en français, c'est dans la queue que se trouve le venin. Eh bien oui, c'est dans la queue de ce projet de traité que se trouve le venin sous deux formes. Première forme, il nous annonce qu'on va créer une structure institutionnelle, alors je traduis le charabia qui suit, qui va chapeauter États-Unis, Europe. Une structure qui va chapeauter les États-Unis. Enfin bon, une structure qui va chapeauter États-Unis, Europe, pour veiller au respect de l'accord. Et, c'est la suite du charabia, pour poursuivre les négociations sur ce qui ne sera pas terminé. Et la Commission européenne qui applaudit des deux mains, elle ajoute dans une note, ce qui sera l'objet de négociations sur ce qui n'est pas terminé, quand ce sera abouti, ça ne viendra plus devant les États. Donc on crée une structure institutionnelle supranationale auquel on donne un pouvoir de contrôle d'application de l'accord et un pouvoir législatif. Qui va composer cette structure ? Ils n'en disent rien. Qui va la contrôler ? Ils n'en disent rien. Quels sont ses pouvoirs en dehors de ceux que je viens de dire ? On n'en sait rien. On a deux petites... Enfin, il y a une indication importante, il y en a une autre qui est folklorique. La folklorique, elle vient de Karel de Gucht. Il nous a fait une conférence à Prague, au mois de novembre, il a parlé de ça. Et alors, il a été typiquement européen. Parce que quand on est un peu familiarisé avec les textes européens, on sait comment il faut les lire. Si le texte vous dit blanc, il faut comprendre noir. Et donc, monsieur de Gucht, vous êtes d'accord avec moi que cette structure institutionnelle qui va vérifier le respect de l'accord, va vérifier qu'on déréglemente bien tout pour avoir les normes les plus basses. Eh bien, monsieur de Gucht nous a donné le nom qu'il souhaite proposer pour cette structure institutionnelle, un conseil pour la régularisation. Donc le contraire de ce que ça va faire. Ça c'est folklorique évidemment, hein, mais même si c'est quand même inquiétant. Mais plus grave, c'est ce que Madame Clinton a dit à propos du partenariat transatlantique. Vous savez, Mme Clinton, elle n'est plus aux affaires pour le moment, mais elle frétille, elle voudrait bien être candidate aux prochaines présidentielles. Elle a dit, le partenariat transatlantique, c'est un OTAN économique. Alors là, c'est clair, nous savons qui dirige l'OTAN. Voilà, alors l'autre poison, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'investissement, c'est la généralisation de l'article 23 de l'AMI, pas seulement aux investisseurs, mais à tous les aspects de l'accord. C'est ce mécanisme de règlement des différends généralisé à tous les aspects de l'accord, donc à toutes les contestations possibles qu'une firme privée pourra avoir à l'égard des pouvoirs publics. Alors, il faut que je sois honnête avec vous, il y a aussi un paquet d'articles qui disent le contraire de ce que je dis depuis 1h31. Eh oui, les voilà, je les ai énumérés. C'est important de le savoir, il y a toute une série d'articles qui sont présentés comme des garanties. D'ailleurs, il y a eu un échange de lettres entre Attac et Mme Bric. Mme Bric, pour ceux qui ne savent pas, c'est la ministre du Commerce du gouvernement Hérault, enfin jusque lundi. Mme Bric a répondu, mais toutes les garanties sont dans le texte. On ne touchera pas aux normes sociales, on ne touchera pas aux normes environnementales, on ne touchera pas aux normes alimentaires, sanitaires, on n'y touchera pas. Toutes les garanties sont dans le texte. Et elle ajoute d'ailleurs, il faut absolument que la transparence, qui est une grande exigence de la démocratie, s'applique. Mais elle n'a jamais donné le texte du mandat. Alors, quand on lit le texte, et vous verrez si vous vous procurez le petit bouquin, vous verrez que les garanties, c'est pas « on ne touchera pas aux normes sociales », c'est « on ne devrait pas toucher aux normes sociales ». C'est pas la même chose, vous en conviendrez. L'usage du conditionnel par rapport à l'indicatif présent ou le futur simple, ça n'a pas le même sens. Mais au-delà de ça, réfléchissons un instant. Qu'est-ce qu'on fait par le biais des institutions européennes depuis 30 ans, si ce n'est privatiser les services publics, démanteler le droit du travail, la flex-sécurité, ça vient d'où? Depuis 30 ans, c'est une agression permanente contre les normes sociales. Comment prendre un instant au sérieux que soudainement, parce qu'on négocie avec les États-Unis, on va faire le contraire de ce qu'on fait depuis 30 ans? À supposer même qu'on essayerait de le faire, on ne peut pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y a une institution dont on ne parle jamais. C'est la Cour de justice de l'Union européenne. Elle existe depuis la CECA. Elle prend des arrêts qui ont force obligatoire. En 2007-2008, elle a pris 4 arrêts. Vous pouvez vérifier. Arrêt Ruffert, arrêt Laval, arrêt Viking, arrêt Commission contre Luxembourg. Dans les 4 arrêts, la Cour dit « le droit de la concurrence a priorité sur le droit social ». Comment penser un seul instant que l'Union européenne négociant avec les États-Unis va protéger les normes sociales chez nous? Et si vous voulez une petite cerise sur ce gâteau empoisonné, je fais appel à votre connaissance de l'actualité de la politique égyptienne. Eh oui, égyptienne. Vous savez qu'il y a eu un gouvernement qui n'est plus là, c'était celui des frères musulmans. Et le gouvernement des frères musulmans avait adopté une mesure que moi je trouve sympa. Il avait adopté une loi qui impose aux firmes étrangères travaillant en Égypte de garantir un salaire minimum au personnel égyptien. C'est plutôt bien, non? Mais vous savez, chez les islamistes, il y a toujours un côté social. Mais j'ai le regret de vous annoncer que l'Union européenne a déposé plainte contre l'Égypte à l'OMC pour discrimination. En matière d'environnement, vous savez, au Canada, ce n'est pas des régions, on appelle ça des provinces. Il y a une province qui s'appelle l'Ontario, où ça doit être des gens assez sympas, parce qu'ils ont, enfin ceux qui dirigent, ils ont adopté une fiscalité dégressive pour les entreprises. Les entreprises payent de moins en moins au fur et à mesure qu'elles polluent moins. L'Union européenne a attaqué le Canada pour la fiscalité de la province de l'Ontario devant l'OMC. Comment pouvez-vous penser un seul instant, quand on évoque des garanties, qu'on va faire une chose avec les États-Unis alors qu'on fait autre chose avec les autres? Ça n'est pas sérieux. Ces garanties-là, c'est de l'enfumage. qui a été fait pour avoir l'accord de certains gouvernements et qui a été fait pour pouvoir réagir aux critiques quand elles arrivent, comme c'est le cas maintenant. Alors, un petit mot sur la culture quand même. Parce qu'on a eu droit à un taratata cocorico de Madame Bric quand elle est rentrée de Bruxelles. Elle nous a dit, on a sauvé la culture. Ah oui ? Ben voyons-en, voyons ce qu'il en est. On a ça dans le préambule. On va... c'est quand même, vous conviendrez, une langue aberrante. Hein. Le droit des partis de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs légitimes des politiques publiques qu'ils estiment nécessaires pour la promotion de la diversité culturelle, telle qu'inscrite dans la Convention de l'UNESCO. Oui, mais... Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention de l'UNESCO. Alors moi, je me suis creusé pour savoir, quand j'examinais le texte pour la première fois, mais quelle est la pierre que Mme Bric a apportée à cette affaire-là ? Ben, la pierre de Mme Bric, la voilà. Les services audiovisuels ne sont pas couverts par ce chapitre. Et moi, j'ai une question à poser. Et les théâtres, et les opéras, et les musées, et les bibliothèques, et les archives, et le patrimoine ? Je viens de décliner toutes les directions du ministère de la Culture. Ça, c'est couvert par le présent chapitre. La GCS va s'appliquer. Il n'y a que les services audiovisuels. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 14 ou le 15 juin, M. Barroso, ce grand démocrate, très respectueux des peuples de l'Union européenne, qu'est-ce qu'il a dit de nous ? Il a dit, c'est français, c'est des réactionnaires. Il n'était pas content qu'il avait dû concéder les services audiovisuels. Alors lui, il a obtenu ça. Je traduis dans le charabia, c'est que s'il veut, eh bien, il reviendra devant le Conseil des ministres avec l'audiovisuel s'il estime que c'est opportun de revenir devant le Conseil des ministres avec l'audiovisuel. À mon avis, il fera ça le 14 juillet et le 15 août. Alors maintenant, on a fini d'examiner le texte. Mais il faut quand même que je vous dise un mot, puisque tout le monde dit que c'est bon pour la croissance et pour l'emploi. Hein, ce sont les grands avantages qu'on va retirer de ça. Oui, mais bon. Alors, il y a une étude qui a été faite. Et là, ce n'est pas du rigolo, hein, ce n'est pas comme les experts de haut niveau. C'est une étude très sérieuse. Et je ne rigole pas. C'est une étude très sérieuse qui a été faite à Londres par ce centre d'études... Par ce centre d'études dont vous avez le nom là, si vous lisez l'anglais, recopiez le nom, vous allez sur Internet et vous avez le rapport dont je vais vous parler. Parce que ce rapport a été validé par la Commission européenne et les gouvernements. Et ce rapport est très sérieux. Ce qui n'est pas sérieux du tout, c'est l'usage qu'en font les journalistes, les gouvernements et la Commission européenne. On est devant une entreprise d'une malhonnêteté intellectuelle majeure. D'abord, les auteurs disent... Ce fut très difficile de pouvoir estimer, en termes d'emplois créés et de croissance, les conséquences du grand marché. Ils sont très honnêtes et ils le répètent à plusieurs reprises qu'il faut prendre leurs conclusions avec prudence. Alors vous avez peut-être vu des chiffres, ce que ça allait rapporter en termes d'emplois créés et de croissance. Ce que vous n'avez jamais vu et qui est dans le rapport, c'est que c'est à l'horizon 2027, dans 13 ans. Et le rapport, dans 13 ans, il nous dit on aura ça et ça. 0,5% d'augmentation du PIB et entre 400 et 500 000 emplois en 2027, dans 13 ans. Ça, vous ne l'avez vu dans aucun journal. Vous ne l'avez entendu dans la bouche d'aucun ministre. Parfois, ils ont transformé ça en chiffres en disant ça fera 537, je ne sais pas du tout d'où ils sortent ce chiffre, 537 euros en plus pour chaque personne, chaque année. Voilà la réalité. Alors, il y a une étude allemande, alors elle, ce n'est pas 2027, c'est 2029, donc c'est 15 ans, et ce n'est pas 500 000, c'est 800 000 emplois. Ça veut dire que ces Allemands, qui sont, paraît-il, si sérieux et si exemplaires, ben, c'est la même chose. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et ce qu'on ne nous dit pas, ce que les auteurs écrivent, mais comment évaluer? Comment évaluer? On peut évaluer, le professeur Berthelot l'a fait, l'impact de la suppression des droits de douane, parce que ça c'est chiffré. Mais comment évaluer la modification d'une règle sur la fabrication du lait ou d'une automobile? Comment évaluer ça en termes d'emplois créés et de taux de croissance? C'est impossible. Ils le disent, on a essayé des tas de modèles économiques, on n'y est pas arrivé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a questionné les industriels. Alors voilà, voilà, c'est ce qu'ils disent. Bon, maintenant, ça, c'est les avantages pour nous, dans 13 ans. Mais si, l'an prochain, la négociation aboutit dans les termes du mandat, que c'est approuvé, que c'est non seulement signé, mais ratifié, et que ça entre en vigueur le 1er janvier 2016, alors tout de suite, pour le secteur privé, ce sera ça, ça, ça et ça. Ce sera la baisse, voire la disparition des normes, des obligations, la liberté d'investir, ce que la définition du PDG d'American Express. Ce sera le secteur privé qui sera l'unique bénéficiaire de la concurrence libre et non faussée, et les normes seront dictées par le privé pour le privé. Ce n'est pas un traité pour la croissance et pour l'emploi, c'est un traité pour confier le contenu des normes aux firmes privées et limiter les droits des gouvernements et des parlements à légiférer. Vous me direz peut-être, ça, vous exagérez. C'est pas possible, c'est trop gros. Hein ? Il y en a qui pensent ça, qu'on exagère, qu'on est dans le catastrophisme. Mais malheureusement, parce que j'aimerais bien, moi, je ne serais pas là, je ferais autre chose. Et vous non plus, on ferait autre chose. On serait peut-être ensemble, mais pour faire autre chose. Malheureusement, on a un exemple. Un exemple vivant, sur 20 ans. Ça s'appelle l'ALENA. L'ALENA, c'est l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors, si vous allez sur Internet et que vous prenez le texte de l'ALENA, qui a été adopté en janvier, il y a 20 ans, on vient de célébrer, si j'ose dire, l'anniversaire. Et si vous regardez le mandat de négociation, c'est quasiment un copier-coller. C'est quasiment un copier-coller. Alors, au Canada, pour le moment, ben, des rapports comme celui-ci, il y en a plein. Hein. On fait le bilan de 20 ans de l'ALENA, North America Free Trade Agreement. Hein, donc, c'est la traduction en anglais. Des rapports comme ça, il y en a plein. Moi, j'en reçois tout le temps parce que j'ai plein d'amis au Canada. Et on fait le bilan. Alors, je vais prendre quelques exemples du bilan. Donc, de ce qui pourrait nous arriver. Les salaires. Eh bien, les salaires, ce sont les salaires mexicains qui ont tiré vers le bas, les salaires américains et les salaires canadiens. Et il y a eu des destructions d'emplois aussi aux États-Unis. Et on peut s'en rendre compte déjà un peu chez nous. Regardez depuis qu'on a fait le grand élargissement. Depuis qu'il y a dans l'Union européenne des pays où les salaires sont beaucoup moins élevés que chez nous. Eh bien, ce sont ces salaires-là qui sont en train maintenant de tirer vers le bas les nôtres. Donc, c'est ce qui va se passer. Deuxième chose. Les bilans qui sont faits au Canada et au Mexique disent tous la même chose. Les États-Unis n'ont pas respecté l'accord. Ils ont continué à financer leurs géants industriels et leurs géants agricoles. Et on a un exemple tout récent, M. Obama, président, première présidence, signe un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. M. Obama, deuxième présidence, viole cet accord pour protéger Apple contre Samsung. La signature des États-Unis n'est pas digne de foi. Troisième exemple. Ben, il y avait au Mexique, il y a un peu plus de 20 ans, dans la Constitution, un article qui protégeait les territoires des peuples premiers, des peuples qui étaient là avant que les Européens arrivent. Eh bien, il y a un investisseur américain qui a trouvé que ça, c'était une limitation intolérable à son droit d'investir où il veut. Et donc, il a demandé au secrétariat de l'ALENA de constituer un groupe d'arbitrage qui a évidemment donné tort au Mexique. Et le Mexique avait le choix soit à payer des compensations à cet investisseur américain, soit à supprimer l'article de sa constitution. Et il a supprimé l'article de sa constitution. Vous vous souvenez du Chiapas ? Avant l'ALENA, donc il y a un peu plus de 20 ans, le Mexique était autosuffisant alimentaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde était nourri à sa faim. Il y avait un problème de redistribution qui existe toujours. Mais il était exportateur net de produits agricoles. 20 ans plus tard, le Mexique est importateur net de produits agricoles et on a perdu des dizaines de milliers d'emplois dans l'agriculture. C'est exactement ce que redoute le professeur Berthelot pour nous. Et alors, en matière de mécanisme de règlement des différends, parce qu'il y en a un dedans, c'est exactement celui-là qui est dans le projet de traité transatlantique. En 20 ans, le Canada a été attaqué 30 fois par des firmes privées américaines. Il a perdu 30 fois. En 20 ans, le Mexique a été attaqué 5 fois par des firmes privées américaines. Il a perdu 5 fois. En 20 ans, 22 firmes du Canada et du Mexique ont attaqué les États-Unis. Elles ont perdu 22 fois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce mécanisme de règlement des différends, c'est un leurre. C'est un machin pour faire croire qu'il y a une justice et en fait pour réaliser le rêve de Rockefeller, pour donner aux firmes privées le pouvoir d'accepter ou de refuser les normes qu'elles acceptent ou qu'elles refusent. C'est ça, 20 ans d'ALENA, 20 ans dont on devrait tenir compte avant de donner notre accord à cela, parce que sinon, eh bien, vous savez ce qui nous attend. Alors, avant de terminer, deux choses encore. Certains me disent, mais comment est-il possible que le gouvernement actuel soutienne cela alors que Jospin l'avait rejeté? Il faut chercher un petit peu. Ben, moi, j'ai découvert que Mme Bric a comme conseillère Mme Revel, qui est une énarque de formation, mais qui vient du secteur privé. Le secteur privé est très présent dans les cabinets des ministres de l'actuel gouvernement. Et que Mme Revel a, en prévision, c'est elle qui gère le dossier partenariat transatlantique pour Mme Bric. Elle a donc en prévision des décisions à prendre et rédiger un rapport qui est sur Internet, qui date du mois de janvier de l'an passé. Et au mois de janvier de l'an passé, dans ce rapport, on trouve ceci. Il faut prendre acte et tirer parti de la tendance de la délégation de la règle au privé. Au mois de janvier, c'est-à-dire des semaines, pour ne pas dire des mois, avant qu'un beau matin, un mercredi matin, à l'Élysée, le Conseil des ministres, tout ministre confondu, donne le feu vert pour que Mme Bric puisse aller à Bruxelles défendre ce projet avec l'audiovisuel en moins. Des mois avant la réunion du 14 juin. Ce qui veut dire que des mois avant, alors qu'on sait ce qui se prépare, puisqu'on a en main les recommandations de la Commission, il n'y a pas la moindre volonté de résistance. Je voudrais terminer, et pour conclure, lire avec vous ce que disait un homme qui a probablement perdu la vie à cause de ses paroles prononcées devant l'Assemblée générale des Nations Unies en 1972. Salvador Allende disait, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et les États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. Salvador Allende, Assemblée générale des Nations Unies, 1972. Un an plus tard, c'était le coup d'État de Pinochet. Et souvenons-nous que ce coup d'État a été préparé par la multinationale américaine ITT. Et qu'après ça, non seulement le Chili, mais beaucoup d'Amérique latine, de pays d'Amérique latine ont passé des années sous des dictatures atroces, pendant lesquelles on expérimentait le néolibéralisme le plus avancé, c'est-à-dire celui qu'on nous propose dans ce projet de partenariat transatlantique. Nous avons l'exemple de l'ALENA, nous avons l'exemple de l'Amérique latine, ça devrait suffire pour que nous nous mobilisions toutes et tous pour empêcher le partenariat transatlantique. Je vous remercie de votre attention.